Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine. Mardi 12 mars 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 temps universel. Au sommaire ce soir.
Le sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy demande une conférence internationale sur la crise anglophone au Cameroun.
Au Mali, un camion de l'armée saute sur une mine faisant au moins 7 morts.
En Algérie, les manifestations persistent alors que le président Bouteflika dit renoncer à briguer un cinquième mandat.
On fera aussi le point sur le crash du Boeing 737 Max qui a fait 157 morts en Éthiopie.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Ce soir, dans l'actualité africaine, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, propose la tenue d'un forum international pour résoudre la crise anglophone au Cameroun. Déclaration faite ce matin au cours d'une conférence de presse téléphonique. Nous faisons le point avec Emmanuel Jules Tappe.
Chaque jour, les gens meurent. Ils sont en train de souffrir dans la partie anglophone du Cameroun, a déclaré Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Au diplomate américain d'ajouter, citation, « Il faut envisager la tenue d'une discussion internationale pour résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. » Fin de citation. L'idée, a-t-il soutenu, est un dialogue ouvert et sans limite sur la crise anglophone. C'est un problème important au niveau du gouvernement et même du Congrès américain, a-t-il souligné. Le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi à cette nouvelle sortie médiatique de Tibor Nagy, mais le 5 mars dernier, après les propos du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines sur la crise anglophone, le Cameroun avait estimé que le diplomate américain avait une méconnaissance de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. En tournée actuellement en Afrique, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines va passer 2 jours au Cameroun, dimanche et lundi prochain. Son programme prévoit une rencontre avec le président Paul Biya et le ministre camerounais des Relations extérieures. Certains titres de journaux parus ce mardi à Yaoundé ont d'ores et déjà taxé le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines de partisans de l'opposition camerounaise. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Cameroun toujours, l'opposant Maurice Kamto et une centaine de ses partisans se considèrent comme des prisonniers politiques. C'est ce qui ressort d'une déclaration signée par Monsieur Kamto et 4 de ses alliés. Certains d'entre eux sont détenus depuis fin janvier.
L'ONU met en garde en République démocratique du Congo le massacre de centaines de personnes dans les violences communautaires ayant embrasé mi-décembre l'ouest du pays pourraient constituer des crimes contre l'humanité, d'après la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Michel Bachelet encourage le gouvernement à initier un processus de réconciliation et de vérité entre les communautés Banounou et Batende.
RDC toujours, élection à la présidence des assemblées provinciales. La coalition de l'ex-président Joseph Kabila se félicite d'avoir remporté 20 provinces sur les 24 scrutins organisés hier. Le FCC félicite les députés provinciaux pour leur loyauté envers Joseph Kabila.
Le Rwanda a invité Emmanuel Macron à assister à la commémoration du 25e anniversaire du génocide, le 7 avril à Kigali. Le chef de l'État français en visite cette semaine à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya, n'a pas encore fait connaître ses intentions.
Au Mali, l'explosion de 2 mines a tué 7 militaires maliens ce matin dans la région de Mopti. 4 sont morts à Ombori et 3 à Dialoubé. Le point avec Kassim Traoré.
Depuis un certain temps, tous les véhicules, les cars de transport sont escortés par les militaires maliens de Gao à Douaza. C'est ainsi que dans la matinée de ce mardi 12 mars 2019, qu'aux environs de 9h50, un véhicule de la mission d'escorte des FAMA ayant quitté Gossi pour Omori a sauté sur un engin explosif improvisé, non loin de Omori. Le bilan provisoire faisait état de 4 morts et le véhicule détruit. La mission était aux arrêts dans la zone de l'incident pour évacuer les victimes sur Gao. À Dialoubé, toujours dans la région de Mopti, un véhicule blindé de la gendarmerie à patrouille a sauté sur un autre engin explosif. Le bilan est de 3 morts. Hier, un camion 10 tonnes transportant des forêts en provenance de Djakabou dans le cercle de Koro a aussi sauté sur une autre mine aux alentours de Djungani, cercle de Koro. Le bilan fait état de 5 blessés dont un grave et un dégât matériel très important. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbeji, était convoqué ce mardi à la brigade criminelle de Cotonou, mais il n'y s'y est pas rendu. Le chef du parti du Renouveau démocratique y avait été convoqué pour affaire le concernant, ce sont les termes de la police, en même temps que le vice-président du parti, Charlemagne Oumfo. Seul M. Oumfo s'est rendu donc dans les locaux de la brigade criminelle. Adrien Oumbeji bénéficie d'une immunité parlementaire qui le protège en théorie de toute interpellation ou arrestation.
En Algérie, plusieurs milliers d'étudiants sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour dénoncer ce qu'ils qualifient de ruse du président Abdelaziz Bouteflika afin de se maintenir au pouvoir. Les nouvelles manifestations surviennent au lendemain du retrait de la candidature du chef de l'État algérien à un cinquième mandat et du report signé de la présidentielle. Le compte-rendu de Jacques Aristide.
Après l'euphorie, le doute, à Alger ce mardi, les étudiants mais aussi de nombreux enseignants ont défilé dans les rues pour dire non à ce qu'ils appellent une prolongation du quatrième mandat.
Le président n'a pas le droit de reporter les élections et de prolonger le quatrième mandat. C'est anticonstitutionnel.
Le président Bouteflika, cible d'une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, affirme en effet qu'il ne briguera pas au cinquième mandat, mais ne partira pas avant la présidentielle, elle, reportée à une date qui demeure inconnue. À l'international, la France, ancienne puissance coloniale, salue son renoncement, mais appelle à une transition d'une durée raisonnable.
Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect.
Pour l'heure, l'annonce du chef de l'État algérien n'a pas calmé la rue. Les appels sont déjà lancés pour de nouveaux rassemblements le 15 mars. Un rendez-vous pour un quatrième vendredi consécutif de manifestations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le crash d'un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines près d'Addis Abeba dimanche, 4 mois après un accident similaire en Indonésie, a conduit plusieurs pays et compagnies à clouer au sol ou bannir de leur espace aérien ce modèle d'avion. L'Agence européenne de sécurité aérienne a, elle, décidé de fermer l'espace aérien européen au Boeing 737 MAX 8 et 9. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'autorité britannique de l'aviation civile a ordonné d'arrêter tous les vols commerciaux de toute compagnie exploitant les Boeing 737 MAX partant ou arrivant au Royaume-Uni ou survolant son espace aérien. L'aviation civile australienne, à elle, interdit tous les Boeing 737 MAX dans son espace aérien avec effet immédiat. Le régulateur de l'aviation civile de Singapour a annoncé suspendre temporairement les opérations des appareils de ce type de Boeing à destination et au départ de l'île. D'autres pays comme la Chine, la Mongolie, l'Indonésie, dont la compagnie Lion's Air a perdu un Boeing 737 MAX le 29 octobre dernier avec 189 personnes à bord, ont demandé aux compagnies aériennes nationales de suspendre les vols de ce type d'appareil. Des compagnies aériennes comme Ethiopian Airlines, Gol au Brésil, Comair en Afrique du Sud, ont immobilisé leur Boeing 737 MAX. Ici aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'aviation a déclaré être impliquée dans l'enquête et être prête à prendre les décisions sur les suites à donner en fonction des éléments récoltés.
En Syrie, le calme régnait sur le front après 2 nuits de combats incessants qui ont tué des dizaines de combattants du groupe État islamique selon les forces anti-djihadistes soutenues par Washington. À Baghouz, le dernier réduit de Daesh dans le pays, environ 2000 personnes, dont des djihadistes en majorité, se sont rendus aux forces démocratiques syriennes.
Crise syrienne toujours, la troisième conférence pour l'avenir de la Syrie s'est ouverte aujourd'hui à Bruxelles. Des ONG ont rappelé que la situation humanitaire et sanitaire est dramatique et que 13,2 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une assistance. Pour l'ONG CARE, les filles et les femmes sont le plus durement impactées. Elles représentent 72% des personnes ayant besoin d'aide humanitaire en Syrie.
À Jérusalem, la police israélienne a évacué et fermé l'esplanade des mosquées après des heurts entre forces de l'ordre et palestiniens. Le troisième lieu saint de l'islam, également révéré par les juifs, est un site ultra sensible et le théâtre de nouvelles tensions depuis quelques semaines.
En Iran, l'avocate Nasrin Soutoudeh, qui purge une peine de prison de 5 ans, a été condamnée à 10 années d'emprisonnement supplémentaire. La célèbre militante des droits de l'homme a été également condamnée à 148 coups de fouet pour s'être présentée au tribunal sans le voile islamique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement centrafricain et le Fonds international pour le développement de l'agriculture ont signé un accord de 12,4 millions de dollars pour la relance des cultures vivrières et du petit élevage dans les savanes. Ecofin rapporte que d'un coût global de 29 millions de dollars, ce projet vise à renforcer la production, la transformation et la commercialisation de l'arachide, du maïs, du niébé, du haricot rouge, du manioc et du petit bétail. Il permettra aussi d'aider les agriculteurs à s'adapter aux effets du changement climatique. Ce projet devrait toucher 30 000 ménages vulnérables dans les sous-préfectures de Bouar, Baoro, Yaloké et Bosemtélé. Le Bénin s'apprête à lever un nouveau financement sur le marché international. Si aucun montant exact n'a été révélé, Bloomberg, qui a publié la nouvelle, indique que l'émission sera libellée en euros et coûtera entre 500 millions et 1 milliard d'euros avec une maturité maximale de 8 ans. Des réunions avec de potentiels preneurs devraient être organisées à partir de ce mardi en Europe et aux États-Unis. Terminons avec la Zambie, dont la dette extérieure a atteint 10,05 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, contre 8,74 milliards de dollars à la fin de 2017. La ministre des Finances, Margaret Mwanakatwe, explique cette hausse par l'augmentation des décaissements au titre de prêts contractés antérieurement pour des projets soutenant la diversification économique.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Aubameyang sur la liste du Gabon contre le Burundi.
Oui, malgré ses bisbilles avec la fédération, la star Pierre-Emerick Aubameyang est bien présente sur la liste de Daniel Cousin pour affronter le Burundi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Depuis Libreville, Ismaël Obiangze nous fait le point de cette liste.
Mon objectif, c'est de hisser haut les couleurs du Gabon lors du match contre le Burundi. C'est ce qu'a déclaré Daniel Cousin lorsqu'il a signé son contrat début mars, soit quelques jours après avoir reçu l'avant-sur-solde de ses arriérés. Désormais, face à ses engagements, le coach des Panthères a dévoilé sa liste de 23 joueurs convoqués pour la mission du 22 mars à Bujumbura. Il s'agit d'une sélection nationale dans l'obligation de s'imposer si elle veut être présente à la CAN Égypte 2019. Daniel Cousin, coach du Gabon.
Celui qui vient sans état d'esprit de gagneur, il n'a rien à faire. Là, bon, ça c'est un match, pour moi c'est comme une finale de Coupe du Monde.
En froid avec la fédération et en pleine réflexion sur son avenir international, la star Pierre-Emerick Aubameyang est dans la liste. Reste à savoir si l'attaquant d'Arsenal va honorer sa convocation, sachant qu'il a récemment laissé planer un doute à ce sujet. Pour le reste, on note le retour du milieu de terrain Didier Ibrahim Dong de Guingamp et Malik Evouna qui ont profité du mercato pour retrouver du temps de jeu. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
En Tunisie, Alain Giresse dévoile sa première liste.
Une liste marquée par le retour du milieu offensif Youssef Msakni et du gardien Mouez Hassan, absent depuis plusieurs mois pour blessure. Le portier Aymen Matlouti est lui aussi rappelé. Giresse a opté pour un équilibre entre les cadres comme Kazri, Maloul, Sliti et Sassi et les valeurs montantes du championnat local tels que Firas Chawat, du CS Sfaxien et Yessine Chamaki du club africain. Toujours pas de retour par contre pour Aymen Abdenou qui ne joue pas avec l'Olympique de Marseille. Déjà qualifié pour la CAN 2019, la Tunisie reçoit l'Iswati, entendez l'ex-Swaziland, pour un match sans enjeu le 22 mars, puis elle affrontera l'Algérie 4 jours plus tard à Alger, un match amical.
La Guinée a mis en place son comité d'organisation de la CAN 2025.
Oui, ce comité est présidé par le ministre en charge des sports. Il comprend entre autres le président de la FEGIFOOT, Antonio Soare, et l'ancien international Aboubakar Titi Camara. La Guinée a accepté l'organisation de la CAN 2025 à la suite du glissement proposé par la CAF alors qu'elle devait initialement abriter l'édition 2023 qui est finalement revenue à la Côte d'Ivoire.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec et Claire Morin-Gibourg. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat et il a reporté sine die la présidentielle. Les incertitudes demeurent quant à la suite du processus politique en Algérie. Pour un éclairage, Raïssa Girondin a joint le rédacteur en chef du journal El Watan, Zine Cherfaoui.
Alors, il s'agit pratiquement de la deuxième offre politique du président sortant. La première offre politique consistait à le laisser se présenter et en contrepartie, il s'engageait à un changement du système politique n'a pas été accepté par la rue. La preuve en a été faite par les importantes mobilisations qu'ont connues des principales villes du pays. Et là, il revient avec une seconde offre politique qui consiste à dire « je ne me présente pas pour un cinquième mandat ».
Est-ce que vous pensez que c'est une première victoire de la rue ?
Oui, bien évidemment que c'est une première victoire de la rue, mais beaucoup d'observateurs ici, y compris la presse, considèrent que c'est une bataille de gagner, mais en aucun cas il faut considérer que la guerre est remportée.
Pour décortiquer le communiqué, il a annoncé également que la présidentielle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale pour réformer le système. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le président va rester en place au-delà de son mandat, parce qu'en fait, il ne démissionne pas. Donc, il va rester au-delà de son mandat. Il sera là jusqu'au référendum qui aura à se prononcer sur la nouvelle constitution. Il sera là aussi lorsque sera organisée la prochaine présidentielle.
Certains parlent de diversion pour détourner l'attention et pour calmer la mobilisation. Et
manifestement, cette proposition-là ne fait pas l'unanimité actuellement dans certains états-majors de partis politiques ou au sein d'une une partie de l'opinion publique.
Pour vous, le peuple a-t-il encore un rôle à jouer ?
L'offre politique a été faite hier, elle n'est pas acceptée du tout parce que les manifestations se poursuivent. Vous avez plusieurs milliers d'étudiants, donc ils demandent carrément au président de partir au terme de son mandat qui arrive à échéance le 28 avril prochain. Vous avez ici, la classe politique est un peu divisée en deux. Vous avez les partis au pouvoir, donc aujourd'hui, qui ont applaudi l'annonce faite hier de l'annulation des élections, donc ils l'ont accueilli favorablement. Mais vous avez aussi le reste de la classe politique, opposition, personnalité, etc., qui disent que d'abord, ces décisions n'ont aucun fondement juridique, et puis de quel droit il va chapeauter lui-même une période de transition en allongeant un mandat qui aussi n'a aucune assise juridique.
Est-ce qu'on peut parler d'élections démocratiques ?
C'est pour ça que les gens hésitent un peu. Ils se disent, voilà, donc c'est toujours la même personne qui va encore encadrer tout ce processus de changement, et les gens disent que, est-ce que ce n'est pas une ruse, une manœuvre pour le système de se perpétuer ou de sauver quelques nobles.
C'était Zine Cherfaoui, rédacteur en chef du journal El Watan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur africain de coton. Aujourd'hui, le pays ne produit plus que 600 000 tonnes, en baisse de 25%. Une situation qui inquiète les acteurs de la filière qui se sont réunis en conclave à Ouagadougou. Les détails avec notre correspondant dans la capitale burkinabé, Issa Napon.
Durant 3 jours, des acteurs de la filière coton du Burkina, des représentants du gouvernement et des experts se penchent sur les difficultés qui minent cette filière ces dernières années. Difficultés qui ne sont pas passées inaperçues tant le Burkina a perdu sa place parmi les premiers producteurs de l'or blanc en Afrique. Cela explique la forte volonté du gouvernement burkinabé de travailler à renverser la tendance à travers 2 grandes décisions, soutient le directeur général de la Société des fibres et textiles du Burkina, Wilfried Diamyogo.
La première, c'est d'octroyer une subvention de 5 milliards de francs CFA pour l'apurement de la dette interne des producteurs dans la zone Sofitex. La deuxième décision qui a été prise, c'est que l'État burkinabé a décidé d'apporter une subvention aux intrants de la campagne 2018-2019 à hauteur de 9 milliards 614 millions de francs CFA.
Plus de 4 millions de personnes tirent leurs revenus des activités cotonnières. C'est pourquoi le gouvernement se devait de sonner la relance de la filière en travaillant à redresser les contre-performances de ces 2 dernières campagnes. Rien ne sera occulté sur l'ensemble de la chaîne pour réussir, martèle le président du comité de haut niveau institué par la présidence du FASO. Haruna Kabore est le ministre en charge du commerce.
Nous traitons la question donc de la production, de la productivité, la question de la commercialisation, les questions exogènes, les facteurs qui contribuent à la production, pour que nous puissions trouver donc des solutions définitives. Et là, nous avons impliqué tout le monde. Nous avons impliqué et les cotoculteurs, et les sociétés cotonnières, les partenaires techniques et financiers, et aussi la recherche, pour que déjà la campagne qui démarre là, nous puissions être tous d'accord sur les intrants à utiliser, leur qualité, que nous soyons tous d'accord sur ce qui va être fait, sur les questions donc des terrains, le choix effectivement des pesticides, tout ce qu'il faut déjà pour cette campagne. Dans le processus d'industrialisation, nous allons travailler à rapprocher les unités donc d'égrenage et aussi donc des filatures donc dans les zones cotonnières pour que ceux qui sont dans le domaine puissent énormément bénéficier des avantages de la filière.
Le coton qui contribue à plus de 4% au PIB national et à plus de 20% des revenus agricoles du pays est longtemps cité en exemple dans le monde, traverse aujourd'hui des difficultés liées aux caprices de la nature, de la qualité des intrants et de l'infestation parasitaire entre autres. Cet atelier devrait trouver un remède adéquat pour que la filière retrouve son lustre d'antan. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les États-Unis vont retirer tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas en raison de l'aggravation de la crise au Venezuela. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État Mike Pompeo en affirmant que la présence de son personnel diplomatique est devenue une contrainte pour la politique de Washington. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Paris le chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, Christophe Ventura.
C'est une péripétie, en fait, un épisode qui vient s'inscrire dans une séquence de long terme, qui est celle engagée avec l'épreuve de force qui a démarré le 23 janvier. En soi, cette nouvelle aujourd'hui ne constitue pas une nouveauté ou une rupture. C'en est une, bien sûr, mais c'est un épisode de plus dans la lente et trajectoire de rupture entre Washington et Caracas.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit que la présence de son personnel diplomatique est devenu une contrainte pour la politique de Washington. Est-ce un prélude au recours de l'usage de la force ?
C'est vrai que la formule est assez mystérieuse. On peut l'interpréter comme ça. Effectivement, ça laisse entendre que la présence d'officiels américains à Caracas empêcherait, une intervention ou quelque chose que les États-Unis s'apprêteraient à faire sur le territoire vénézuélien. Ça évoque en tout cas ce type de choses-là. Qu'il va falloir suivre les précisions que va apporter Washington.
Et quel est le risque d'une intervention militaire américaine ?
Écoutez, il est réel. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit tout simplement de prendre au sérieux les propos de l'administration de Donald Trump, du président lui-même, de son secrétaire d'État, de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. La question d'intervention, elle reste tout à fait viable. Elle est également assumée comme telle par M. Juan Guaido, à la différence de la plupart de ses alliés latino-américains qui ne veulent pas l'usage de la force, c'est leur limite. Mais en même temps, les conditions pratique, concrète, pour une intervention au Venezuela ne semble pas être réunie.
Washington a durement attaqué Cuba et la Russie pour leur soutien au président Maduro. Est-ce qu'on peut dire que la Havane et Moscou ont finalement eu le dessus sur Washington ?
Non, je pense que Cuba et la Russie s'opposent dans les domaines où ils le peuvent. Ils ne peuvent pas contrer les États-Unis sur le domaine des sanctions commerciales, financières et économiques, par exemple. Et ils ne peuvent pas non plus contrer Washington, le cas échéant, à cette étape sur la dimension militaire. Se précisait, le pouvoir et la puissance de la Havane et de Moscou restent quand même assez limité par rapport à la force de frappe des États-Unis, mais sur le terrain diplomatique, peuvent jouer d'égal à égal, surtout Moscou, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'était Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les forces anti-djihadistes soutenues par les Occidentaux mettent la pression sur le groupe État islamique dont les combattants sont retranchés dans leur dernier bastion dans le nord syrien. Plus de 65 000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont été obligées d'évacuer la zone assiégée vers des camps de la région. Ce déplacement massif de familles de combattants du groupe État islamique était inattendu, surtout qu'elles sont loin de renoncer à l'idéologie radicale de l'organisation. Reportage dans le camp d'Alol, dans le nord de la Syrie, de Heather Murdoch avec le récit d'Abdourahman Dia.
La majorité des déplacés qui ont fui le dernier bastion du groupe État islamique sont liés d'une manière ou d'une autre aux combattants djihadistes. Beaucoup sont soit des épouses, des veuves ou des enfants qui croient toujours à l'idéologie du groupe. Oum Mohamed estime que le groupe État islamique avait raison de tuer ses ennemis et espère que les enfants vont suivre les pas de leur père quand ils vont grandir.
Je n'aurai pas besoin de leur dire. Ils savent ce qu'ils aiment. Ils aiment l'État islamique. Leur père y appartenait.
Les travailleurs humanitaires estiment que le seul moyen à leur disposition pour contrer l'extrémisme est de fournir de l'assistance et montrer qu'on n'est pas l'ennemi. Mais le surpeuplement et le manque de produits de base menacent cet objectif. Au moins 100 personnes sont mortes récemment en chemin vers le camp ou à leur arrivée. Toutes presque étaient des enfants. À côté de cette crise sanitaire meurtrière, les organisations ont besoin de milliers de tentes. Mazen Shkek est responsable du camp.
Nous sommes dans une situation d'urgence, comme vous le voyez, parce que nous avons beaucoup de personnes qui viennent d'endroits qui étaient sous le contrôle du groupe État islamique et nous avons beaucoup de besoins.
Les familles étrangères des combattants de Daesh sont séparées des autres. Elles attendent de savoir si leur pays d'origine vont les autoriser à rentrer. L'avenir des familles syriennes et irakiennes est également incertain. En rejoignant le groupe, elles se sont éloignées de leur localité d'origine et pourraient faire face au rejet de leur communauté si elles y retournaient. Mais pour les organisations humanitaires, la priorité, c'est d'abord d'essayer d'améliorer les conditions de vie dans le camp d'Al-Hol.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiro, à la console, Mikhaïl Dubinsky, à la présentation, Morgane Guériec et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau point sur l'actualité suivi du magazine des femmes présenté par Nathalie Barge. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.